Bonne partie de Capital Service, merci de rester fidèle à ce programme. Partout, vous êtes en République démocratique du Congo. Dieudonné Nyangasa est à la technique. À côté de lui, c'est Joël Bokongo qui est sur la réalisation. Marcel Ngoumboum, Balakeba, à la coordination micro. Aujourd'hui, Daniel Kachama. Comment vaincre les complexes liés à un handicap physique? On en parle tout à l'heure avec Paul Moulin, psychologue. Il est également éducateur à la vie. Le rendez-vous de l'emploi avec Pamela Amunazo. Apprêtez-vous à prêter déjà quelques votre kilo, un petit carnet pour le rendez-vous de l'emploi. Des femmes vulnérables, quelques femmes vulnérables des Kindu sont initiées à des activités génératrices de revenus. On en parle dans le service. Les carences des juges au tribunal des grandes instances des Guéména. Le premier président de la cour d'appel de Mbandaka, Mwamba Kayenda Wakabundi, sera notre invité au Capi Service. Voilà, vous voulez participer, vous pouvez nous faire parvenir un texto au 081-070-2050 ou nous appeler au 081-890-63-94. Vous pouvez également nous écrire à service@radiocapi.net. Excellente condition d'écoute du magazine au Capi Service.
Concours Congo Jubilé 2010. Un concours ouvert à toutes les écoles agréées de la République démocratique du Congo.
Vous êtes élève de 5e et 6e année secondaire. Organisez-vous et participez au nom de votre école. Répondez aux questions et gagnez des prix exceptionnels. Voici les questions.
À quelle classe primaire la coopération technique belge a-t-elle distribué des manuels scolaires?
Depuis quelle année est organisé l'examen des temps RVT?
Citez les trois premiers ministres de la République démocratique du Congo depuis l'indépendance.
Citez l'Organisation des Nations Unies créée pour préserver la paix dans le monde pour l'éducation et la culture.
Quel est le mode de prévention le plus efficace contre la transmission sexuelle du VIH-SIDA?
Attention, question bonus. Combien d'écoles de la RDC ont participé à ce concours?
Pour participer, envoyez vos SMS au 081 323 15 09, 081 323 15 09 ou par email à concours@radiocapi.net. concours@radiocapi.net.
Indiquez bien le nom de votre école et votre ville et allez sur radiocapi.net.
Avec Radio Capi, jouez au concours Congo Jubilé 2010. Date limite, le 18 octobre 2010.
Et oui, c'est parti, nous recevons à présent Paul Mboula, psychologue, bonjour.
Bonjour.
Avec vous, nous parlons des complexes, hein, les complexes liés, je disais tout à l'heure, à un handicap physique. Vous savez, Paul, certaines personnes vivent avec un handicap physique ou souvent un complexe d'infériorité. Qu'ils ont du mal à surmonter, ils se sont diminués lorsqu'ils sont en face des personnes bien constituées. Alors que dans bien des domaines, ces personnes peuvent exceller en dépit de leur handicap physique. Comment les aider à surmonter ces complexes?
Merci Daniel. La première chose, c'est de se dire que ce complexe existe plus souvent chez des personnes qui n'ont pas été aidées dès l'enfance. Commençons notre émission par là parce que tout le monde n'a pas reçu les mêmes chances de par la nature.
Bon, parlons d'abord de ces complexes. Ça peut être une personne qui boite un peu.
Un épileptique, un sourd, quelqu'un qui est anormalement petit par rapport aux gens de son groupe. Ça peut être quelqu'un qui
est trop maigre.
trop maigre, trop grand par rapport aux autres. Alors, c'est
peut-être un petit défaut au niveau de l'œil ou de la figure.
Ou de la figure, mais on va plus loin jusqu'aux handicaps moteurs et au-delà. On verrait également les arriérés mentales. Donc c'est tous ceux-là qui ont été plus ou moins défavorisés par la nature, qui pourraient comparer aux autres, se trouvent plus ou moins diminués parce qu'ils n'ont pas telle ou telle faculté. C'est de tout cela que nous allons parler, mais tous, comme vous l'avez dit, ne réagissent pas ou ne développent pas le même complexe par rapport aux autres. Parce que la règle, celle que nous allons donner, c'est que l'enfant doit d'abord être accepté comme tel. Moi et toi, rassurez-vous, quand nous regardons au miroir, il y a des choses que nous nous reprochons plus ou moins, en se disant si mon nez était plus ou moins pointu, si mon nez était un peu plus petit, ou encore mes lèvres beaucoup plus étirées. C'est peut-être quelque chose que nous n'avons pas toujours admiré sur notre physique, qui pourrait favoriser un complexe par rapport aux autres, mais il y en a qui ont perdu toute une faculté parce que tel ou tel organe manque ou bien il en a de trop. La polydactylie, par exemple, quelqu'un qui a 6 doigts, qui en a 12, qui en a 22 ou 24, vous comprenez que c'est quelqu'un qui, quand il sort sa main et qu'il n'a pas intériorisé ses défauts, il ne va pas s'épanouir par rapport aux autres. C'est pourquoi nous voulons réfléchir sur la manière dont il faut rendre heureuses ces personnes qui doivent vivre avec un déficit ou un handicap.
Le problème, c'est que ces personnes se disent que voilà, les autres se moquent de moi, les autres se moquent de moi, et puis ça crée un complexe.
Oui, le complexe est né du fait que les parents ont eu peur et se sont sentis à un moment donné responsables de cet handicap. Ce qui a fait que, de par l'éducation, ils ont nuancé, ils ont renforcé cet handicap, et de sorte que, soit par pitié, soit par les démarches qu'ils ont eues à entreprendre, ils ont peut-être concentré toute l'énergie, toutes les ressources pour aider ces personnes, afin que, finalement, quand ils ont trouvé que la nature les avait vaincus, même l'enfant a intériorisé ses défauts et il a réalisé qu'il ne peut plus s'épanouir et se conduire comme les autres personnes.
Ça peut arriver qu'un enfant perde un doigt au cours d'un accident, tout ça, et voilà ses défauts. Cet enfant se sent complexé toute sa vie.
Ça, c'est encore moins, parce que les traumatismes, bien sûr, pourra, et même l'accident peut justifier pourquoi je n'ai pas un doigt. Mais si une personne vient au monde avec 2 doigts seulement, ou avec un cou collé à l'épaule, ou bien un œil effoucheré, ou bien un œil trop grand. Comment vous allez expliquer ça? Tout le monde va rechercher dans la tradition, dans la famille, dans l'histoire du ménage, dans l'histoire du couple, l'origine de cet handicap, et ça frustre d'abord les parents, et s'ils ne sont pas aidés, ils vont développer une personne qui est déjà complexe.
On entend parfois dans les rues de Kinshasa un enfant qu'on a dit « Salaï Kuna Misuma Bondo », donc il y a un enfant qui a des gros yeux, et ça peut amener plus tard un complexe.
Si cet enfant a été insulté plusieurs fois comme ça, et qu'il a compris que ça fait partie de lui, ça va passer. Par contre, s'il n'a pas accepté ce défaut, c'est celui-là qui va provoquer des bagarres partout. Moi, j'ai vu une femme de très petite taille qui, lors de querelles dans le quartier, on a insulté Talaï Mokuse Kuna. Alors la femme, toute fière, est entrée dans sa maison, elle est sortie. Tout le monde ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'elle était entrée dans la maison. On croyait qu'elle allait pleurer. Elle sort avec un pagne super wax. Elle dit, hey, « Hé, maman, Talangaï, moi, c'est Mokuse. Azar au la super wax. Akufakana Muzulu Kunaï. Bah, il dit ça, l'été. » Alors, tout le monde s'est étonné de cette réaction.
Réaction,
immédiatement, on a commencé à se moquer de celle qui avait injurié l'autre,
ouais,
qui était de grande
taille.
Ça l'a eu mon cousin. Alors, tu as dit que tu regretté pour un homme. Mais tu as dit que tu as regretté pour un homme. Tu
as dit que tu donc, il faut s'accepter
tel que l'on est. Donc, si on doit réfléchir sur la manière dont il faut lutter contre ce complexe, la première chose, c'est de regarder les parents. C'est d'aider les parents. Parce que on dit toujours que le malheur de l'enfant viendra moins de son infirmité que de la façon dont les parents ont accepté cette infirmité. C'est cela. Donc, il faut aider les parents.
Donc, ce sont les parents qui doivent rassurer l'enfant, dire à l'enfant, tu es bien comme ça.
Oui, mais d'abord, les parents ne doivent pas se culpabiliser. Parce que trop souvent, ils se culpabilisent. Et ce sentiment de culpabilité va aller jusqu'à ce qu'ils soient convaincus qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour qu'ils puissent normalement aider l'enfant et donner un enfant normal. Et ça va développer la pitié, un autre défaut. L'enfant infirme n'a pas besoin d'apitoiement. Il n'a pas tellement besoin d'être écarté des autres enfants. Il faut le considérer comme les autres enfants. Ce qui va faire que, Daniel, un enfant qui a un handicap, ou qui est plus ou moins débile, ou qui a une surdité, si on lui donne les possibilités de s'épanouir, il va s'intégrer facilement dans la communauté et vous le verrez s'épanouir et heureux. Vous avez vu dans nos quartiers, parfois, des personnes, comme on les appelle à Kinshasa et dans beaucoup de nos villes, hein, handicapés. Il y a des handicapés très sérieux. Hein. On a vu Emoro ici, qui s'est épanoui en tant que musicien. Je ne veux pas citer des noms de gens ici parce que je les considère comme tels et j'ai beaucoup de respect. Mais je dis que ces gens qui ont considéré que malgré un manque de pied, un manque de main, un manque de doigts, un manque de l'œil, ils ont utilisé les seules potentialités qu'ils avaient encore et ils se sont épanouis, ils ont excellé dans tel ou tel domaine. Donc le travail que nous avons à faire en tant que parents, c'est de réaliser que cela est vrai. Nous avons, peut-être que nous avons un peu de moyens pour voir de médecins, pour voir telle ou telle personne,
oui,
mais tout ça, généralement, finit par nous confirmer nos limites.
Oui, Paul Moula, vous savez, il y a certains parents, par exemple, les parents ont eu un enfant qui est albinos, hein, et vous le sentez, ils sont dévastés, les parents se disent, mais pourquoi ça arrive?
C'est grave. Si l'albinos, si l'albinisme peut être considéré comme un handicap, non. Un albinos n'est pas un handicapé. Bien sûr qu'il manque, il a un manque de pigmentation à la peau. Mais est-ce que c'est cela qui le diminue? Non.
D'ailleurs, des facultés,
il a autant de facultés, même plus de facultés que certains enfants qui ont une peau pigmentée. Donc, les efforts que nous avons à faire, même pour l'albinos, beaucoup de parents l'ont fait. Le malheur est fait que chez nous, hein, on ne donne pas l'occasion aux parents qui ont réussi l'éducation d'un tel enfant handicapé à entrer en contact avec les autres qui en souffrent.
Ou qui en ont de leur expérience.
Oui, comme ça, ça pourrait les émuler et réaliser qu'un enfant, quel que soit l'handicap qu'il a, on peut l'aider à vivre heureux.
Vous avez des préoccupations, un besoin d'orientation? Radio Capé réunit des spécialistes compétents dans Capé Service. Toute une équipe de maison d'habitat fait le lien entre eux et vous. Santé, emploi, conseil au monde rural, droits du citoyen, ONG, tous les domaines de la vie sont concernés. Au Capé Service, de lundi à vendredi, dès 9h dans le Kinshasa. Au Capé Service, des astuces simples pour sortir des situations compliquées.
Vous avez des questions par rapport au complexe lié à un handicap physique, hein? Appelez-nous 081-890-6394. Paul Mboula, psychologue, est avec moi dans ce studio. Paul, comment reconnaître qu'une telle personne ou tel enfant est complexé? Ça se manifeste comment, généralement?
Un enfant complexé
ou une personne complexée?
Une personne complexée. il y a plusieurs signaux. Regardez, il y a des gens qui développent une certaine timidité maladive.
Oui.
Qui apparemment ne peuvent pas s'exprimer en public. Généralement, c'est là ce constat chez les enfants qui n'ont pas beaucoup de facilité de communication, de liberté de communication dans leur milieu. Mmh. Mais c'est aussi des enfants qu'on a brimés parfois qui font que quand ils sont quelque part, ils ne font qu'acclamer, écouter les histoires des autres. Et parfois, dès qu'ils essaient de prendre la parole, on les coupe, les plus forts prennent et continuent.
Mmh.
C'est déjà une chose. Deuxièmement, c'est de se taire lorsqu'on a quand même un argument valable à donner. Et on dit, voilà, quelqu'un se sent diminué par rapport aux autres. Et dans le cas de personnes handicapées, on va réaliser que la personne pour laquelle on a eu beaucoup de pitié va s'accommoder, hein. C'est comme un fumeur de chanvre. Au début, ça gêne, mais après, ça devient un désir qui s'installe et c'est le cas, on commence à le réclamer. De la même manière chez la personne qui vit avec handicap. Si on l'a habitué à l'épargner de certaines tâches, on l'a pas exercé à prendre des efforts et écouter. Quand il arrive quelque part, il dira « Et nous, les handicapés, nous ne pouvons pas le faire. » Il y a même une blague qui passait à un moment donné dans une pièce ici, on disait « Biso ba nundu, ba coca, tout ça, tout à katikete. » Non. Mais si vous allez ici au beach, vous allez réaliser qu'il y a des personnes qui vivent avec handicap et de manière positive, qui travaillent de leurs mains, qui vivent de ce qu'ils gagnent, au lieu de sillonner les rues, de passer des maisons
à maison, les fleuves pour aller acheter des
marchandises, ils reviennent, ils vendent. Ce sont des personnes à féliciter parce que ils ont intégré l'handicap et ils s'épanouissent dans la communauté, ils savent comment se débrouiller. Par contre, d'autres se disent, la nature nous a défavorisés, qu'est-ce que nous pouvons encore faire? Et ils se laissent faire.
Voilà, des questions de réaction, composées de 081-890-6394. Vous parlez de, vous étiez en train de parler des signes d'un complexe, la timidité, et quoi d'autre encore?
C'est plutôt le signe majeur, c'est la timidité. Parce que il est normal que l'on puisse ignorer certaines choses, que l'on soit incapable de réagir dans telle ou telle situation. Mais lorsque, sans nous éloigner de notre sujet, lorsque ma crainte, ma peur est liée à mon handicap, alors je dis, je me sens diminué. Par contre, si j'étais habitué à jouer avec les autres, au football par exemple, quand ceux qui peuvent se tenir debout jouent au football et que moi aussi je peux intervenir, même accroupi, en courant ou en jetant, alors jetant la balle, je peux faire le goalkeeper, vous allez réaliser que je pourrais éventuellement m'épanouir mieux que ceux qui sont dans la même condition que moi, qui n'ont pas été aidés. Donc, cette crainte-là, cette peur-là, c'est ça qui justifierait le complexe.
Voilà, donc c'est cette crainte-là. Il arrive parfois de voir une personne maigre qui veut grossir, une personne qui a pris du poids et qui veut maigrir, qui se sent très mal dans sa peau. C'est également un complexe.
C'est un complexe et lié à la non-acceptation de soi. Aujourd'hui, la publicité aidant, on voit les modèles sur des pancartes et on croit que tous les hommes doivent ressembler à ces hommes-là ou toutes les femmes doivent ressembler à celles-là, croyant qu'on est moche. Mais
même à Kinshasa, à une certaine époque, il y avait des slogans « moi c'est une Nzoto », c'est-à-dire une bonne femme, c'est celle qui est bien en chair, et puis on en parlait partout dans la ville.
La mode, il faut s'en moquer parce que après, on va réaliser que ce sont les sveltes qui faisaient la loi ici, qui étaient les plus belles femmes. Et vous avez vu que lorsqu'il y avait concours de mode ou encore lorsqu'on doit élire les Miss, on cherche des maigrelets.
Alors le plus grave encore, après qu'il y a des femmes qui allaient se faire utiliser des produits pour engrosser les bétails, pour utiliser ça, pour prendre du poids.
Oui, parce que l'autre camp avait aussi rebondi. Oui. C'est-à-dire les femmes assez grasses ont réalisé que longtemps elles étaient brimées, et c'était le moment de réagir, de remonter. C'est comme ça qu'elles aussi ont fait la loi. Mais les Suèves devaient comprendre que depuis le 18e siècle, c'était elles qui étaient favorisées. Donc, les poitrines plates, à un moment donné, ont conduit les yeux des hommes, et puis à un moment donné, ce sont les grâces.
Mais donc c'est la mode, quoi.
C'est la mode en soi. Oui. C'est la mode et la faiblesse de la mode et cela.
Oui. Guila nous appelle depuis Mbandaka. Bonjour.
Bonjour, aujourd'hui.
Oui, on vous écoute, Guila.
Je vais demander à notre invité ceci.
Oui.
Quel conseil tu peux nous donner ou il peut donner aux handicaps qui manquent, par exemple, les yeux, et souvent ils préfèrent de déambuler avec les lunettes, exemple d'un yeux seulement. Ils portent souvent les lunettes, souvent pour se promener avec ça, en condition que les gens ne puissent pas voir. Alors, pendant des conférences ou des grandes circonstances qui arrivent, qu'ils puissent, qu'ils soient là, ils portent souvent les lunettes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou les conseils qu'ils peuvent nous donner?
Merci. Le premier conseil, en fait, ma première réaction, c'est que les lunettes ne sont pas choisies par ces personnes qui ne voient pas. On leur fait porter des lunettes. C'est-à-dire, l'entourage a réalisé
que... Peut-être que la personne a un œil qui ne fonctionne pas bien, il veut cacher ça derrière les lunettes.
Oui. C'est-à-dire que depuis toujours qu'il a réalisé qu'il avait ce défaut, cette différence par rapport aux autres, il a trouvé solution à mettre des lunettes. Hein. Ça, c'est Guilain, on doit se dire que tout part du départ. Est-ce qu'il a accepté ça? S'il n'a pas accepté, il sera gêné lorsqu'il va enlever les lunettes. Mais lorsqu'il l'a accepté et qu'il a étudié, même avec cet œil malade, je pense que c'est déjà quelqu'un qui a positivé ou qui a été aidé à positiver son handicap. Mais quand il devient trop tard, là, nous n'avons pas parlé de cas des gens qui ont déjà raté cette éducation, cette initiation à l'acceptation de soi. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est de se ressaisir et de réaliser qu'autour d'eux, il y a d'autres personnes qui ont d'autres handicaps. S'il lui souffre des yeux, mais son voisin pourrait, par exemple, manquer un doigt ou manquer un pied, cela ne les diminue en rien. Donc, une chose, s'il doit se présenter, c'est peut-être pour des raisons esthétiques. Même nous, parfois, nous mettons les lunettes pour des raisons d'esthétique, de beauté. Mais si ça devient maladif, si cela justifie ou cache mon handicap, je me dis, le complexe m'habite encore, mais alors, il faudra que je puisse me dire, ah voilà, malgré mon infirmité, je suis capable de faire mieux que beaucoup de ceux qui ne sont pas handicapés.
Vous avez suivi, Dylan?
Je vous ai suivi très bien, jeudi.
Bien, merci et bonne journée à Mbandaka.
Merci à vous aussi.
Voilà, il y a même certaines personnes qui ont un handicap au niveau de la main. Et alors, la personne se promène toujours la main dans la poche pour cacher cet handicap-là. Et c'est tous les jours comme ça.
Voilà un complexe que vous cherchez. Mais moi, ce que je voulais, c'est d'abord aider les familles. Aider les familles à réaliser que l'handicap d'un enfant devient sujet de complexe si les parents se sont mal pris et... parce qu'ils auront entraîné également les frères et sœurs de la famille. Les frères et les sœurs vont simplement imiter les parents par rapport à ce cas-là. Donc, la première chose à faire, c'est que soi-même, en tant que parent, aider l'enfant qui a un handicap à vivre avec les autres. Ça, c'est une chose. Mais ne l'enfermez pas. Ne l'enfermez pas et ne les sortez pas qu'un seul jour de la semaine, comme beaucoup de gens ont tenté de le faire. Qu'est-ce qui est arrivé? Le jour-là qu'on lui permet de sortir devient le jour le plus détestable de la vie. Pourquoi? Parce que tout le monde fera attention à cette curiosité et va peut-être dire quelque chose de mal sur cette curiosité, ce qui fera que l'enfant sera toujours vexé et son handicap sera toujours une nouveauté. Mais si il a évolué avec les autres, il peut jouer avec les autres, c'est vrai qu'au début, on va l'insulter, on va le gêner, tout ça. Même en cas de colère ou en cas de querelle, on peut faire allusion à son handicap, mais ça ne va pas tellement les vexer comme si on n'en avait jamais parlé en famille.
Oui, on parle aussi souvent des personnes qui bégayent, qui ont des troubles de langage. Et ces personnes se fâchent aussi, s'énervent facilement, semble-t-il, et lorsque la société l'entourage ne les comprend pas.
Oui, mais ça peut être lié aussi à... Mais il y a des grands musiciens de notre pays qui sont bègues. Comprenez que
oui.
Ce sont des gens qui se sont exercés à la parole, au chant, pour diminuer leur handicap. Donc, il y a des handicaps que dont on peut réduire l'ampleur parce que on a été initié à l'accepter d'abord, puis à le soigner soi-même de manière psychologique. Il y a beaucoup d'handicaps sont plus
psychologiques,
posent souvent plus problèmes au niveau du mental lorsque on n'avait pas aidé la personne.
Voilà, qui doit la responsabilité incombe aux parents, d'aider l'enfant et à s'accepter tel quel.
Oui, il faut s'accepter comme ça. C'est comme ça que je disais, lorsque nous sommes en train de... Nous avons par exemple un cas d'un débile mental. C'est un handicap dont on n'a pas trop parlé. Un débile mental, c'est plus un enfant plus ou moins raté par rapport à la famille. Je voudrais commencer par ceux qui sont plus ou moins arriérés mentaux, notamment des enfants qui font moins de points par rapport aux autres, qui ont un développement mental inférieur par rapport aux enfants qui ont le même âge chronologique. Vous allez réaliser qu'un enfant de 16 ans va avoir un comportement et une intelligence d'un enfant de 12 ans. Dans ce cas-là, ne forcez pas trop. Parce que
tous les enfants l'injurier tous les jours
pas seulement l'injurier, mais ne forcez pas avec des devoirs et pour chercher un précepteur, multiplier de brimades, tout ça simplement pour le traumatiser. Et puis dans la vie, la nature décide parfois que nous ne puissions pas tous faire tous la même chose. Je ne saurais peut-être jamais être un bon journaliste comme vous, dans la mesure où j'ai peut-être des limites dans ce que je sais faire. De la même manière, un enfant qui a une intelligence moyenne ou plus ou moins faible doit être aidé à exercer un métier qui pourrait l'aider à être honoré dans la communauté, que de le forcer à tout prix à devenir ingénieur ou à devenir médecin, comme on voudrait avoir autant de médecins dans le pays.
Paul Mboula, psychologue, je vous remercie.
Merci, mon frère.